Domini, cum de operația Ben?
Optime.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. C'est un voyage émouvant, étonnant que nous entreprenons aujourd'hui. Un voyage dans le temps, de la Rome antique, un voyage à Pompéi pour partager un repas, un dernier festin avant l'éruption du Vésuve qui en un instant a englouti la ville, figée dans la cendre, Pompéi, Herculanum notamment, un témoignage unique de la vie à cette époque-là dans la Rome antique. Le dernier repas, c'est une exposition au Musée de l'Homme à Paris, dont vous êtes la conseillère scientifique. Véronique Zec, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes archéobotaniste au Musée national d'histoire naturelle. Apicius, garum, banquet, miel, myrte, nous allons entreprendre et apprendre à nager dans les marmites romaines de l'Antiquité tout au long de cette émission avec Anne Nersissian. Bonjour Anne.
Bonjour Clémence.
Vous êtes archéologue et auteur avec Nicole Blanc de La cuisine romaine antique. C'est un trésor de savoir et de goût qui est réédité là tout juste aux éditions Glénat. Donc bienvenue à toutes les deux, merci beaucoup d'être avec nous. Un dernier festin, La cuisine romaine antique. Voilà un regard comme on les aime ici dans notre émission, dans le goût du monde. Un regard particulier sur l'histoire, sur les quotidiens, un prisme culinaire. Qu'est-ce que nous apporte Véronique, ce regard et cet angle culinaire sur l'histoire?
Le fait de pouvoir retrouver des traces matérielles concrètes de ces choses fragiles que sont les restes végétaux, des traces des plantes qui ont participé à la cuisine, mais aussi à beaucoup d'autres aspects de la vie quotidienne. Et tout à fait intéressant d'une part parce que ces restes sont datés, ils sont découverts en contexte, donc on peut les associer à des ustensiles, à des lieux, à des espaces de vie. Et aussi beaucoup de ces restes ne sont pas forcément de provenance locale, donc ça nous donne aussi un regard sur la manière dont ce patrimoine végétal a évolué au cours du temps. La provenance des plantes, comment elles ont été acclimatées, comment elles ont été reçues, comment elles ont évolué et participé petit à petit à la construction de ce patrimoine culinaire.
Un patrimoine culinaire, c'est ça qui se dessine absolument. Anne, ce prisme
oui,
culinaire.
Ma réponse sera très différente. On retrouve, c'est vrai, les saveurs, on retrouve l'entourage intellectuel et spirituel de ces repas romains. Et c'est en ça aussi que le projet est complet, en quelque sorte.
D'avoir l'ambiance.
Il y a l'ambiance, il y a l'histoire culturelle de Rome. On a l'impression d'entendre les gens commenter leur repas. La variété des sources mises à contribution est garante du résultat, parce que en dehors du végétal, qui est quand même essentiel dans la mesure où les céréales ou les végétaux sont la base de l'alimentation, il y a tout le reste.
Oui, c'est ça qui est formidable dans vos professions en étant archéo, donc vous recherchez dans l'ancien et vous nous faites revivre en réalité la manière dont on a pu vivre, dont les échanges ont pu se passer. Et ce regard alimentaire, il est important parce que est-ce que c'est une façon pour vous de faire rejaillir de l'intime et du vraiment quotidien de la vie des gens, Véronique?
Oui, tout à fait. C'est la magie de ce site de Pompéi qui est absolument unique en archéologie. Il nous donne un instantané de ce qu'était la vie quotidienne à l'époque antique. Il donne un regard sur une ville, mais aussi sur tout le déroulement des activités de la vie quotidienne des personnes qui a été figée à un moment T. Donc c'est assez rare de pouvoir observer les choses en connexion avec les lieux de vie, en connexion avec les ustensiles, en connexion avec tous ces aspects de la vie. Souvent, on a affaire à des restes animaux, des restes végétaux qui sont associés à des lieux plutôt de rejet. Et là, on les a vraiment en position primaire, associées aux actions qui se déroulaient dans les maisons.
C'est pour ça que c'est des images très saisissantes. Vous m'avez dit en préparant cette émission que ce qui vous intéressait aussi, c'est de pouvoir donner une voix à ceux qu'on entend finalement si rarement, à savoir les paysans, ceux qui produisaient cette nourriture qu'on a trouvée à Pompéi, les lentilles notamment, enfin, parce que ce sont les premières qui viennent. Ça, c'est important, c'est ce que ce travail permet.
Oui, entre autres parce que les sources écrites apportent énormément d'informations, mais ce sont des informations qui sont délivrées en fait pour une population lettrée qui possédait des grands domaines. Donc les textes des auteurs latins qu'on appelle les agronomes s'adressent en fait à des grands propriétaires. Et on a finalement un regard plus limité sur la vie quotidienne des paysans, des populations modestes, parce que c'était des choses assez triviales qui sont pas forcément décrites dans la littérature. Et finalement, ce sont les traces matérielles, donc l'archéologie, qui va donner accès à d'autres informations concernant ces populations. Mmh. Et l'histoire, c'est une histoire globale. On s'intéresse aux classes les plus aisées, mais on veut aussi s'intéresser et comprendre l'histoire des personnes plus ordinaires et les rendre proches de nous.
Mmh. Toute une question de méthodologie aussi. Anne Nersessian, comment est-ce que vous avez procédé pour écrire ce livre? Bien sûr, le livre s'ouvre sur un chapitre de sources.
Nous avons croisé les sources. Alors, nous avions à notre disposition le recueil d'Apicius. Et
en
c'est
cuisiner.
Par là qu'on commence. Et quand on commence à lire Apicius, on a tout de suite une avalanche de questions. Est-ce que nous savons le lire? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il emploie comme vocabulaire fait sens pour nous? Est-ce que nous savons de quel produit il s'agit? Parce que nous les avons cherchés, les produits. Bon, le garum, c'est facile. Mais ensuite, les autres produits, on s'est parfois donné du mal. Mmh. Par exemple, pour le silphium et tout ça, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça signifie? Quel goût ça a? Et quand on a commencer à chercher des équivalents, parce que le silphium est réputé disparu, quand on a on s'est ouvert tout un pan d'histoire botanique, tout un pan d'histoire gustative, et c'est autant d'éléments dans les reconstitutions.
Véronique Zec, ce silphium dont parle Anne Nersessian, qu'est-ce que c'est que donc? On comprend que c'est une plante, manifestement.
Oui, mais c'est une difficulté, effectivement, de l'utilisation des sources grecques ou latines, c'est que certains termes sont génériques. Ils désignent, par exemple, toutes les céréales ou tous les légumes secs. Et d'autres termes sont des termes qui désignent parfois des variétés très locales, dont il n'existe plus évidemment l'équivalent actuel. Donc on a assez régulièrement des difficultés à faire correspondre les termes qui apparaissent dans les textes grecs ou latins avec des noms botaniques d'espèces précises. Parce qu'il y a également des confusions entre espèces, ou parce qu'il y a des espèces qui sont nouvelles pour ces auteurs, qui sont des plantes exotiques qu'ils découvrent, et auxquels ils n'ont pas encore attribué un nom précis dans la langue latine, et donc ils empruntent en fait les noms sous lesquels cette plante circule. Donc il y a toute une évolution aussi dans les termes utilisés, et avec la difficulté de retrouver les espèces actuelles auxquelles ces termes correspondent.
Alors là, quand on vous entend, on se dit, alors, plantes exotiques, des choses qu'on ne connaît pas, alors qu'en réalité, c'était exotique pour les Romains. Ils avaient une certaine appétence, justement, pour cet exotisme, ils étaient curieux.
Oui, tout à fait. Avec l'extension de la domination romaine et l'ouverture de voies commerciales vers d'autres continents, on voit effectivement apparaître toute une série d'espèces qui proviennent pour certaines d'Extrême-Orient, qui proviennent de Chine. Qui
Par exemple.
Donc dans les exotiques, il y a les agrumes, donc tout ce qui est citron, orange, cédra. Il y a le sésame également, qui est une plante qui provient d'Inde. Il y a le poivre, il y a toute une série de plantes aromatiques, toute une série d'épices. Mais même les dattes, par exemple, c'est un produit exotique, parce que le palmier dattier pouvait être planté en Italie, mais il n'y fructifiait pas. Et donc, on importe les dattes d'Afrique du Nord ou de la péninsule arabique. Donc, il y a toute une série de produits qui sont des exotiques et qui le sont restés, parce qu'on ne pouvait pas les acclimater, les adapter en Italie. Et puis, il y a toute une série de plantes d'origine étrangère qui vont être effectivement acclimatées et qui vont venir petit à petit élargir la diversité des espèces végétales qu'on pouvait exploiter.
Et ça, c'est au gré, bien sûr, de l'expansion de l'Empire romain qu'on acquiert ces figues, ces dattes. L'histoire de cette cuisine s'est écrite aussi avec l'expansion de l'Empire ?
Oui, et même bien avant, parce qu'il y a toute une série d'espèces qui ont été domestiquées, cultivées et acclimatées bien avant, avant même que Pompéi devienne une colonie romaine. Avant la ville romaine, il y a une ville samnite, et c'est une population qui a participé à l'effort de guerre romain, donc qui a participé en fait à la conquête de l'Orient, Rome étant opposée à Carthage pour justement l'ouverture vers ses voies commerciales. Et donc la ville a connu un premier enrichissement important au IIe siècle avant Jésus-Christ, sous l'égide des Samnites. C'est là que les grandes domus urbaines, par exemple, sont construites. Et c'est une période très florissante, avec un enrichissement considérable de la population et des premières grandes vagues d'arrivées de plantes exotiques. Mmh. On a des traces, par exemple, de la présence de cédras au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a des découvertes de graines de sésame, donc originaires d'Inde au IIe siècle avant. Donc avant même que Pompéi devienne romaine, donc qu'elle devienne colonie romaine en 80 avant Jésus-Christ, on a déjà la présence de ces plantes exotiques qui montrent les contacts commerciaux avec l'Asie et avec d'autres continents.
Et qui apporte à Nersession un peu de goût et de saveur à ces bouillies de céréales, parce que c'était quand même assez frugal le repas du Romain avant toutes ces découvertes, n'est-ce pas ?
Bien évidemment. D'ailleurs, c'était en quelque sorte le Romain se prévalait de cette frugalité qui était vertueuse. Et c'est après que le ver étant entré dans le fruit, ils se sont quand même considérablement amollis. Ils ont apprécié ses apports. Quand je vous dis que la romanité était frugale et fière de l'être, c'est par exemple, on en trouve la trace dans ses lois somptuaires. On a même érigé, donc on a rédigé des lois pour limiter le luxe à table. Bon, évidemment, comme chaque fois qu'on édicte des lois, de pareilles lois, ça ne tient pas. Ça se débride très rapidement et le luxe étant engouffré dans le domaine de la frugalité, c'est devenu une cuisine extrêmement raffinée, extrêmement préoccupée d'elle-même et extrêmement subtile. Donc, cet intérêt pour l'exotisme est tout à fait manifeste.
Cet intérêt pour l'exotisme, alors, vous l'avez dit, Véronique, il fallait, en tout cas, on tentait d'acclimater les plantes pour pouvoir ensuite les avoir sur son territoire. Une sorte d'acclimatation et donc un appel et une envie de reproduction, une envie d'implantation et de production de ces fruits et légumes exotiques. Comment ça fonctionnait tout ça ?
Oui, il y a vraiment un goût pour la diversité, une curiosité pour la diversité qui apparaît dans les textes et qu'on retrouve dans la diversité des produits retrouvés dans les restes archéologiques. Il y a eu plusieurs grandes vagues d'arrivée des espèces et les espèces les plus anciennement domestiquées sont des espèces qu'on pouvait reproduire facilement par bouturage ou marcottage. La deuxième grande vague d'introduction des espèces étant celle qui nécessitait des techniques de propagation plus sophistiquées comme la greffe. On va d'abord...
Donc là, on parle de fruits, on parle de...
On parle de fruitiers, oui. C'est essentiellement la diversité parmi les produits de base, elle évolue peu. On a un certain panel de céréales et de légumineuses qui sont vraiment les produits de base de l'alimentation. Donc toute une série de blé, d'orge, du seigle, et puis des produits comme la lentille, la fève, des légumineuses qui complètent donc les céréales. Mais c'est surtout dans l'arboriculture fruitière et dans les plantes horticoles qu'on va observer cette diversité. Donc tout le processus de mise en culture et de domestication des plantes, il va tendre en fait à sélectionner au sein de cette diversité des variétés qui sont intéressantes par leur aspect, leur propriété gustative, le fait qu'elles se conservent facilement, le fait qu'elles puissent être acclimatées. Et ces procédés, ils vont tendre alors à essayer de d'exercer un contrôle sur le végétal de manière à conserver en fait les qualités du produit recherché. C'est-à-dire que on passe de modes de propagation qui sont basés sur la dispersion des graines à des modes de propagation végétative qui s'apparentent à un clonage, donc, de manière à pouvoir conserver la qualité des plantes mères.
D'accord. Quel type de plantes, par exemple, sont nées à cette époque-là, à l'issue de ce clonage dont vous parliez?
Alors, des plantes cultivées en sainement, il y a évidemment l'olivier, la vigne, mais aussi le figuier. Et des plantes qui vont être de domestication plus récente, ça va être la pomme, la poire, dont on a les équivalents sauvages qui sont spontanés. Mais les variétés domestiques sont issues d'autres croisements et on va beaucoup développer leur diversité, en fait, à l'époque antique. Donc, il y a une diversité au sein des espèces, mais également au sein des variétés qu'on va développer à partir de certaines espèces. Mmh. Donc, il y a des dizaines de variétés de pommes, de poires, mais aussi de raisins. Il y a toute une série d'autres espèces qui vont rejoindre donc ce panel. Il y a toutes les prunes, les cerises, et puis des choses d'origine plus exotique comme la pêche, qui est originaire de Chine, dont on a les premiers exemples au tout début du 1er siècle. L'abricot, qu'on recherche toujours, qui normalement aurait suivi les mêmes voies d'introduction, mais qui est beaucoup plus rare que la pêche dans les restes archéobotaniques. Il y a toute la série des prunes, mais il y a aussi la nèfle, la cornouille. La variété des fruitiers est extrêmement large.
Large, y compris dans les recettes, n'est-ce pas, Nercession? J'ai un patina de poire dans la tête.
La patina de poire. Ben, grosso modo, si vous l'appelez clafoutis de poire, vous ne serez pas loin de la vérité.
Excepté qu'il y a du garum dedans, alors rappelons que le garum, c'est quand même une sorte d'expression de poisson pressé.
Oui,
et fermenté.
Et par exemple, dans toute pâte de gâteau, vous mettez bien une pincée de sel.
Absolument.
Donc, vous allez mettre 3 gouttes de garum et vous aurez mis du garum. Ça ne veut pas dire que votre plat sera salé ou sentira le poisson.
D'ailleurs, ça fait partie de certaines recettes asiatiques actuelles, où en fait, le garum, comme le poivre, c'est un produit qui permet d'exalter les autres saveurs.
Ah,
et,
ben oui.
Et donc, dans les salades de fruits, par exemple, on rajoute un petit peu de nwakmam, qui est très proche du point de vue du goût du garum. Pas effectivement pour que la salade de fruits prenne un goût de poisson, mais pour exalter les différents parfums.
Ça fait partie de ces produits miracles qui mettent du relief, quoi.
Véronique Zec nous évoquait un petit peu, elle a brossé la figue, elle a brossé l'olivier, elle a brossé la vigne. Ce sont des principes fondamentaux de la culture alimentaire antique romaine, Nercession.
Et l'huile, le vin, il semblerait que en Crimée, la vigne apparaît il y a 4000 ans. Donc, le vin va la suivre. L'olive doit bien avoir aussi, 3000 ans. Avant l'olive elle-même, il y avait des variétés sauvageonnes qu'on utilisait, mais je ne sais pas si on faisait de l'huile avec.
Véronique Zec.
Oui, c'est possible, mais en fait, on a pu étudier des séries de noyaux d'olive retrouvés dans les boulangers, notamment parce qu'on utilisait comme combustible dans les fours les résidus de pressage des olives. Et donc, il y a des techniques qui permettent, en fait, à partir de l'étude fine de la forme et des contours de ces olives, de distinguer les variétés sauvages et variétés domestiques. Et donc, ces techniques de morphométrie géométrique ont été appliquées à ces noyaux et ont permis de déterminer qu'il s'agissait uniquement d'olives domestiques. Donc le terroir de Pompéi était extrêmement fertile du fait des conditions particulières des sols. Et c'est un terroir dans lequel on cultive à grande échelle des grains, mais aussi la vigne, l'olivier, toute une série de fruitiers. Et c'était d'ailleurs, la Campanie était une région réputée pour certaines productions, notamment celle des figues. aussi des noisettes. Et c'était une région où produisait un cru célèbre, le Falerne, qui était un des vins les plus appréciés dans l'Antiquité. Donc on a aussi ce phénomène où certains produits issus de certains terroirs ont une réputation solide, qui vont conserver longtemps et qui sont appréciés en fait pour leur qualité gustative associée donc à des régions particulières.
Alors je vais citer Pline, exalté, oui. Hein, sur le territoire campanien. On marie les vignes peupliers en lassant leur époux dans leurs bras amoureux. Elles grimpent de branche en branche dans leur marche noueuse en atteignant la cime à une telle hauteur que le contrat du vendangeur lui garantit bûcher et tombeau. Parce qu'on imagine bien qu'une vigne accrochée à un peuplier, balancé par le vent, avec une échelle contre le peuplier, ça ne doit pas être évident. Donc ça, c'est Pline, et ça, j'ai trouvé évidemment cet extrait dans votre livre, Anne Mercession. L'olive qui a aussi, vous l'avez dit, vous avez utilisé, on peut utiliser l'olive de A à Z, j'ai envie de dire, la vigne également de A à Z, puisque le raisin, on l'a sous plusieurs formes, n'est-ce pas, Anne Mercession?
Oui, bien sûr. D'abord, le raisin, il y a le raisin de table, et comme toutes ces douceurs, il a une période relativement brève, donc on essaye de le mettre en conserve, on essaye de le faire durer autant que possible, déjà en faisant du raisin sec, mais aussi en le mettant dans des jars avec de l'eau miellée, de manière à ce qu'il ne pourrisse pas et qu'il puisse se survivre et être présent sur les tables aussi longtemps que possible. Alors, vous avez parlé des greffes. Les Romains ont été des greffeurs acharnés et ils ont beaucoup donné dans cette direction. Ils ont fait des prodiges de reproduction d'espèces. Le rêve fou du jardinier romain aurait été d'avoir des raisins frais toute l'année. Bon, ce n'est pas possible, mais enfin, ils se sont vraiment appliqués à prolonger les saisons.
Véronique, vous vouliez dire quelque chose sur les greffes?
Non, c'était par rapport justement à cette question de la conservation pour aussi mettre en avant l'importance des produits dérivés de la vigne, puisque on va utiliser également le vinaigre et le vin cuit, ce qu'on appelle des frutum, comme produit favorisant la conservation de toute une série de choses. Et les olives, entre autres, sont souvent confites de cette manière et conservées de cette manière. Donc ce sont aussi, le vin a évidemment une importance sociale importante, déclinée sous différentes qualités, différentes formes, mais les produits dérivés ont une importance au moins équivalente, justement pour la conservation des aliments.
Du coup, on va parler de conservation, n'est-ce pas, Anne Mercession?
Oui.
Parce que c'est essentiel, évidemment, dans une pratique et un patrimoine culinaire. Qu'est-ce qui distingue la conservation et les méthodes de conservation romaines dans l'Antiquité des autres méthodes de conservation? Quel chemin on a parcouru en réalité?
Je crois qu'on n'en a pas parcouru beaucoup. Si, on congèle. Mais on congèle, mais par exemple, tout le reste, on séchait, on confisait soit en saumure forte, soit en saumure légère. Et là, on avait les phénomènes de fermentation lactique, comme ce qui donne la choucroute. Ensuite, on avait évidemment le fumage. Mais par exemple, fumage, on fumait les tresses d'oignons pour les empêcher de germer. Et c'est toujours pratiqué.
Dans votre livre, La cuisine romaine antique, vous parlez des dattes dont on exprimait, est-ce qu'on peut dire comme ça, un sirop?
Oui, par exemple, les dattes qui n'étaient pas très vendables, on ne les laissait pas perdre, on les traitait de manière, soit en faisant de la pâte de dattes, et d'ailleurs, on en trouve toujours dans le commerce maintenant, la pâte de dattes ou le sirop de dattes, de manière à ne rien laisser perdre.
Navi.
Aria di Roma, Nino Rota, bande originale du film Roma de Fellini. Vous nous rejoignez, bienvenue dans nos marmites, des dattes, des épices, du miel bientôt, des lièvres farcis, des caillettes et autres délices parfumés, plongés dans les saveurs de la Rome antique aujourd'hui avec Véronique Zec, archéobotaniste et conseillère scientifique de l'exposition qui se tient en ce moment au Musée de l'Homme à Paris, dernier repas à Pompéi, et en ligne également à Nersessian, archéologue et auteur de La cuisine romaine antique, publié et réédité chez Glénat. Alors on parlait bien sûr de conservation juste avant ces quelques notes d'Aria di Roma, de conservation. On n'a pas encore parlé d'un des aspects assez crucial, c'est du miel.
Oui, c'est un produit effectivement important puisque c'est quasiment la seule substance qui permet d'avoir accès à la gamme sucrée. Et l'apiculture s'est bien développée déjà un petit peu avant l'époque romaine, donc c'est quelque chose qui est bien maîtrisé à cette époque et qui permet donc d'avoir à la fois une substance qui apporte une gamme de goût supplémentaire et qui joue aussi un rôle important dans la conservation des produits.
Ce miel, il apporte donc un édulcorant, cette saveur sucrée. Si on devait, Anne Nersessian, décrire les saveurs de cette cuisine romaine antique, vous diriez quoi ?
Ah, je dirais que, bon, il y a des choses qui se sont conservées, transmises depuis l'époque romaine dans la cuisine française. Par exemple, la cuisine au fromage et au vin. Mais pour le reste, on a du mal à se faire une idée. Pour les reconstitutions de recettes, nous avons fait appel à 5 sources. Et c'est en croisant les 5 sources qu'on peut espérer s'approcher du cœur du sujet, parce que il y a bien longtemps que le légionnaire qui pourrait attester que la patina ressemble à celle de sa maman, nous l'avons perdu depuis longtemps. Donc il faut faire preuve de précaution et d'imagination.
Je vous interromps, on est quand même à Nersessian dans les notes très aromatiques, parfumées, dans les épices. En tout cas, c'est là, en vous lisant, moi j'ai tout de suite eu dans mon palais ce type de notes.
Oui, mais une fois de plus, à quel point avons-nous raison et à quel point sommes-nous approximatismes ? Nous ne le savons pas.
Véronique Zec, vous avez eu l'occasion de goûter un peu de cette cuisine romaine antique.
Oui, tout à fait. J'ai été surprise par la gamme des saveurs et surtout par certains contrastes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'apprécier. Donc, des contrastes entre les notes poivrées et sucrées, par exemple. Et puis, une cuisine qui ne dédaigne pas des saveurs acides, voire amères, qu'on n'a pas non plus forcément l'habitude d'apprécier maintenant. Mais une cuisine qui fait appel à beaucoup d'épices, à beaucoup d'aromates et à des saveurs parfois très puissantes, très contrastées, oui.
D'accord, pas doux du tout alors, du coup, dans votre impression, celle que vous avez eue.
Si, il y a également de la douceur, des notes sucrées, mais c'est surtout l'idée de contraste. D'association entre des saveurs qui nous surprennent, oui.
Anne Nersessian, vous êtes d'accord ?
Oui et non. C'est-à-dire que on a toujours le maître étalon, ce sont nos propres habitudes culinaires. Par exemple, la sensibilité de notre palais personnel à l'intensité du sel, les alliances et les corrections possibles. Par exemple, l'acide va contrebalancer le salé. Le doux va être également corrigé par une autre saveur. Et l'amer et le sucré sont alliés dans le processus de émousser l'amertume qui peut être extrêmement pugnace dans le mélange.
Une cuisine très équilibrée.
Oui, je pense que oui.
Dans toutes les recettes que vous avez pu voir, sur lesquelles vous avez pu travailler, laquelle vous a le plus séduit ? Laquelle serait pour vous à l'image du goût de la Rome antique ? C'est dur, ça.
Ah, il y en a certainement plusieurs. Il y en a que nous avons essayé et nous sommes tombés d'accord pour dire « mais c'est ça ». Les autres, il y en a d'autres que nous avons essayé à plusieurs reprises et on s'est dit que « bah, ça doit être quelque chose comme ça ».
Nous, on veut ça. Alors, lesquels étaient ça ?
Les poireaux au chou.
Les poireaux au chou ?
Oui. Les poireaux au chou, c'est les feuilles de vigne farcies orientales. En l'occurrence, ce sont des poireaux tombée à l'huile, enfin une pommade de poireau entourée d'une feuille de chou. Et ce sont des saveurs qui s'allient impeccablement, qui s'allient délicieusement et qui ont parfaitement leur place dans un repas classique. Vous servez vos poireaux au chaud et vous ne dites pas que c'est romain.
Y a-t-il des épices qui vont justement relever ou équilibrer ces poireaux au chou ?
Non, besoin de rien.
Tout simplement, des poireaux au chou. Il faudra nous donner la recette, alors on la partagera évidemment sur la page du Goût du Monde. Évidemment, nous sommes dans la Rome antique, nous sommes à Pompéi. Il y a une ville organisée avec des maisons, des différentes classes sociales, des commerces. Comment est-ce que tout cela s'organisait, Véronique Zec ? Est-ce qu'il y avait des commerces typiques, des boulangeries dans chaque quartier ? Est-ce que ça s'organisait par quartier ou bien autour d'une maison de maître ? Comment ça fonctionnait ?
Il y a effectivement des différences sociales qui s'expriment en fonction des quartiers, mais il y a également des équipements qu'on retrouve distribués sur l'ensemble de la ville, avec notamment des boulangeries. Il y a une petite quarantaine de boulangeries qui sont réparties sur l'ensemble des 60 hectares de la ville. Et ce sont souvent des boulangeries qui associent en fait des salles de mouture et de cuisson. Des pains, mais aussi d'autres produits à base de céréales, et des boutiques. Donc ce sont à la fois des espaces où on va cuire le pain et puis également le vendre. Donc toutes les maisons n'étaient pas forcément équipées d'un four, et des particuliers qui pouvaient donc apporter leur pâton à cuire dans ces boulangeries. Mais elles font aussi du commerce, donc elles vendent également les produits issus de leur lieu de préparation.
D'accord. Et d'ailleurs, il y a une boulangerie laissée intacte après l'éruption du Vésuve. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette boulangerie ?
Oui, donc l'éruption du Vésuve a effectivement fossilisé un certain nombre d'actions en cours. Et dans une des maisons, la maison du four, on a découvert une fournée de pain qui était en train de cuire dans le four au moment de l'éruption. Et donc, ce sont ces fameux pains qui sont prédécoupés à segments qui sont présentés au musée de Naples, et on en a retrouvé également des exemplaires carbonisés à Herculanum. Donc tous ces restes alimentaires, ils nous sont parvenus en fait du fait du contact de ces restes organiques avec une source de chaleur, et ils ont subi ce qu'on appelle une carbonisation, c'est-à-dire que la matière organique est transformée en carbone, et dans la mesure où ça devient donc une matière minérale, ce sont des restes qui vont plus être sujets à la putréfaction ni aux attaques des bactéries et qui vont donc pouvoir se conserver pendant plusieurs siècles. C'est comme ça qu'on a retrouvé donc des pains carbonisés, mais aussi des fruits carbonisés, des restes de fourrage, des restes de céréales, de légumes secs conservés dans les grands vases de stockage qu'on appelle des dolias, qu'on a retrouvés en place dans certaines boutiques. On a retrouvé également des amphores, des bouteilles qui contenaient encore de l'huile d'olive. On a retrouvé toutes sortes de choses en place dans les maisons et dans les boutiques, dans leur emplacement de stockage, mais aussi dans leur emplacement de vente pour certains produits.
Un témoignage complètement unique qu'on peut voir et découvrir en tout cas en partie avec l'exposition du Musée de l'Homme. Anne Nersessian, on a découvert également qu'il existait une cuisine de rue.
Ben, elle existe toujours. C'est à Pompéi, c'est le camelot qui porte un réchaud où il a des saucisses au chaud. Actuellement, c'est le sandwich qu'on achète devant un étal de café. Et vous partez avec votre sandwich que vous continuez à manger dans le métro.
Ce qui explique aussi cette cuisine de rue, peut-être, c'est que tout le monde, vous l'avez dit, Véronique Zec, tout le monde n'avait pas de four. Donc tout le monde n'avait pas forcément les moyens de faire chauffer sa nourriture. Et peut-être que cette cuisine de rue, c'est sa source à elle, que tout un chacun puisse manger.
Oui, tout à fait. Les grandes maisons urbaines qu'on appelle les domus sont bien équipées. Elles sont équipées d'une cuisine. Elles ont accès à des équipements souvent liés d'ailleurs, la cuisine est souvent associée aux thermes privés ou à des lieux où on peut entretenir un feu, obtenir de l'eau chaude, pouvoir disposer les ustensiles et avoir un espace de cuisson. Mais toutes les maisons ne sont pas équipées de tels aménagements. Et donc il y a aussi une partie de l'alimentation qui se passe dans la rue via les petites boutiques qui offre ce type de service. Donc, en général, ces boutiques, elles associent des grands vases et la conservation de certains produits à des équipements un peu plus légers qui permettent de les transformer et d'offrir une nourriture de rue au quotidien. Oui.
Les repas, la journée était organisée comment à Nercession? Est-ce qu'on nous avions déjà un petit déjeuner?
On doit avoir un petit déjeuner, quelque chose au saut du lit. Ensuite, vers le milieu de la journée, ou vers 11h, on a un autre quelque chose, un morceau de fromage, un morceau de pain, une poignée d'olives. Et dans les bonnes maisons, quand il y a un dîner, eh bien, c'est au milieu de l'après-midi où, après s'être baigné, on se rassemble, on se met à table.
D'accord. Est-ce que c'est la quena?
Oui.
Ou la Seine, ou Tchène?
La Seine, mais oui, c'est ça la Seine. La Seine, c'est le milieu de l'après-midi. Et normalement, tout est terminé le soir tombé. Mais vous savez, il y a des gens qui sont à ce point mal appris qu'ils continuent à festoyer à la lumière des lampes. C'est considéré quand même comme extrêmement hardi.
Tout à fait. Là, on est quand même dans les banquets.
Oui, on est dans les banquets, mais...
Comment mangeait-on? Alors, qu'est-ce qu'on mangeait? Avec les doigts?
Avec les doigts.
Donc, il ne fallait pas que ce soit trop chaud?
Non, justement, quand on a parlé de réchauffer les plats, il y a aussi une question de civilisation. Par exemple, en Grèce, enfin dans le monde méditerranéen, il est de la dernière impolitesse de servir des plats brûlants. Même si maintenant les fourchettes sont largement connues et utilisées, le goût pour le tiède est demeuré tel quel. Et quant à manger avec les mains, il y a des civilisations entières qui ne procèdent pas autrement. Regardez la civilisation iranienne, par exemple. Les gens se servent de leurs mains et de la manière la plus élégante qui soit.
Bien sûr, manger avec les mains, nous y sommes très, très habitués sur RFI.
Mais par exemple, vous prenez une bonne pincée de riz, vous la pressez légèrement avec trois, quatre doigts, et vous la portez à la bouche, c'est une manière simple et qui peut être extrêmement distinguée, élégante.
Dans votre livre, Anne Nercession, vous dites que le mets, avant d'être saveur, doit être spectacle.
C'est le cas. C'est vrai d'ailleurs, même si vos moyens ou votre imagination pour présenter un mets n'est pas délirante, vous essayez de le faire de la manière la plus agréable à l'œil. L'œil participe de plein droit à la saveur d'un mets. Ça fait partie de la fête de la rencontre, la fête du fait social.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Véronique Zec, cette alimentation se retrouve également dans les rites et dans les moments de la vie, y compris dans les moments de la vie quand c'est la fin de la vie, y compris dans la mort. Autour des rites funéraires, comment s'introduit l'alimentaire et le végétal dans ces rites funéraires?
Oui, on va retrouver dans les cérémonies funéraires et aussi dans les sacrifices effectués dans les lieux de culte un reflet de cette alimentation quotidienne qui est basée sur des produits ordinaires comme les céréales. Une des céréales très sollicitées, c'est le blé amidonier. C'est un blé qu'on a moins l'habitude de voir maintenant, qui sert essentiellement à confectionner des bouillies, des cruaux de céréales. On va également solliciter beaucoup les légumineuses, comme la fève, la lentille. Et on trouverait régulièrement aussi dans les dépôts funéraires donc toute une série de fruits qui étaient des produits de consommation très courante comme la figue et l'olive, qui sont au même titre que les céréales des produits de l'alimentation de base ordinaire. Donc il y a différents moments au cours des funérailles où on va faire appel à des produits alimentaires. La première étape étant la crémation du corps sur un bûcher funéraire. Et donc, il y a déjà des dépôts, des offrandes d'aliments qui s'effectuent sur le bûcher. Donc, ça peut être des denrées brutes, comme des fruits, une grappe de raisin, une pomme de pin pignon. Mais ça peut être aussi des produits transformés, comme des pains, des galettes, des pâtisseries. Et il y a également des repas qui sont partagés par la famille près de la tombe, au moment de la fermeture de la tombe. Il y a également des dépôts alimentaires qui vont encore se faire après la fermeture de la tombe, dans les jours qui suivent, et également chaque année, lors des cérémonies de commémoration qui appellent à nouveau des sacrifices. Et donc, le fait de brûler à la flamme certains produits alimentaires, dont des produits végétaux. Donc, il y a vraiment une succession de gestes et de moments dans les rituels funéraires qui font appel à des produits alimentaires, végétaux, mais aussi animaux.
Et dans les autels, dans les sacrifices au quotidien, peut-être dans les domus, est-ce qu'il y a aussi cette notion alimentaire et religieuse, du coup, qui s'inscrit dans le quotidien?
Oui, tout à fait. Donc, à l'endroit où se trouve le foyer, dans la maison, il y a souvent un petit autel qu'on appelle le larère, qui est en fait un autel dédié aux dieux protecteurs de la maison, les dieux lares. Et donc, il y a des sacrifices qui sont effectués également sur cet autel. Donc, on en a beaucoup de représentations picturales. Donc, on a une idée un peu des produits qui étaient offerts. Ça peut être des œufs, mais ça peut être aussi des fruits comme la datte, qui est souvent un produit choisi pour le sacrifice. Et on a également retrouvé, enterré dans le jardin de certaines maisons, comme la maison d'Amaranthus, les résidus de ces sacrifices domestiques, sous la forme là aussi de résidus carbonisés, donc associant des fruits, des produits alimentaires comme des céréales ou des produits transformés comme des restes de pain, de pâtisserie, mais également des fleurs, puisque ça on le sait par les sources écrites, une partie des offrandes pouvait être constituée de guirlandes florales, de guirlandes végétales.
Et les herbes aromatiques étaient-elles brûlées, permettaient-elles aussi une meilleure communication avec les divinités?
Oui, tout à fait. Donc certaines offrandes consistent également en herbes aromatiques, par exemple des graines de coriandre ou des épices, et également toute une série de tubercules qui pouvaient à la fois entrer dans la sphère alimentaire et qui pouvaient être utilisés également dans la sphère de la parfumerie. Donc on a des associations qui évoquent davantage des espèces de pot-pourri, entre guillemets, plutôt que des restes de repas.
Anne Nersessian, d'ailleurs, vous dites dans votre livre, vous parlez des couleurs, des sons, vous parlez des parfums également. C'est important qu'on ait tous ces sens en éveil lors d'un repas.
Mais bien sûr, mais d'ailleurs, les choses n'ont pas changé. L'ornementation d'une table ou la mise en scène du repas, ça fait partie du repas. C'est le soin qu'on apporte à toute cette sphère, à tous ces moments de consommation qui en font tout le prix, c'est l'harmonie, c'est le soin qu'on y apporte, qui apporte l'harmonie entre le son et les parfums qui tournent dans l'air du soir, c'est ça la fête. C'est assez indicible, mais c'est ça la fête.
Et vu le faste et le luxe de certaines fêtes telles qu'elles sont rapportées dans les Écritures, je crois qu'on ne souffrirait pas aujourd'hui la comparaison. On termine cette émission évidemment avec une tradition qui est la nôtre, un ingrédient et un ustensile que je vais demander à chacune d'entre vous. Véronique Zec, est-ce que vous avez réfléchi à un ingrédient et un ustensile que vous souhaiteriez partager avec nous?
Oui, donc j'ai choisi le moulin rotatif, qui permet donc de transformer les céréales en farine et en produits plus grossiers également. Alors ce n'est pas une invention romaine, c'est un instrument qui circule à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui est donc constitué de meules, une meule dormante et puis une meule active. Donc qui permet à la fois de décortiquer les céréales et puis de les réduire en farine. Et qui va accélérer en fait cette opération pénible qui consistait à broyer les grains au quotidien pour obtenir ces produits de base. Et ça va permettre de réduire de 10 fois le temps de travail consacré donc à cette opération. Et c'est quelque chose qui équipe quasiment toutes les maisons. Donc dans les boulangeries, on va par contre voir des meules de beaucoup plus grande dimension actionnées par des hommes ou des animaux. Mais à la maison, ce qu'on utilise quotidiennement, c'est ce moulin rotatif.
D'accord, donc un moulin rotatif sous la main et voilà. Comme ingrédient alors.
Et comme ingrédient, donc c'est évidemment la transformation des céréales et tous les produits que ça peut générer, que ce soit des farines, des semoules, des grumeaux, et la variété infinie des recettes qu'on peut en tirer, puisque à côté du pain proprement dit, il y a déjà une variété de formes de pain extraordinaires, dont on retrouve un pâle reflet dans le matériel archéologique, puisque ce sont des choses qui sont un peu plus rares que les denrées brutes, mais également toute la variété des biscuits, des pâtisseries, des pains plats, des galettes. C'est une variété infinie de saveurs et de formes qu'on tire de cette substance toute simple qu'est la farine.
Essentielle substance. À vous, Anne Nercessian, un ingrédient, un ustensile à partager avec nous.
Si je commence par l'ustensile, ce sera le mortier. Comme vous le savez, la cuisine d'Apicius est d'abord une cuisine de sauce. Et toutes les sauces commencent par le broyage des denrées, c'est-à-dire des herbes, des épices, des graines, et que l'on réduit en pulpe. Alors, le mortier, ce n'est pas ce vase creux avec un pilon pour broyer, c'est plutôt un vase ouvert comme un saladier très plat. Et dans le fond de ce saladier très plat, dans l'argile, on a mis un peu de sable pour pouvoir donner du mordant.
À la pierre, du coup.
Voilà, c'est ça. Ensuite, ce qui remplace le pilon, en réalité, c'est plutôt du bois ou de la terre cuite, mais c'est quelque chose, on râpe le produit sur le fond. On ne le pile pas.
Et c'est le principe du mortier, on l'écrase.
On l'écrase et enfin on le réduit en pulpe.
Votre ingrédient?
Mon ingrédient, ça ne sera pas le garum, pardon, ni l'huile d'olive, pas même le vin, mais c'est un aromate, c'est une graine aromatique qui est le myrte. Alors le myrte est bien connu des Corses parce que il rentre dans la licoristerie, dans la pâtisserie, dans tout ça, mais dans la cuisine romaine, il rentre dans les sauces. Et ça donne des sauces absolument exceptionnelles, de parfum et d'originalité.
Indéfinissable, vous m'avez même dit.
Ah, indéfinissable. Non, c'est très aromatique. Je dirais que c'est une grande originalité de la cuisine romaine. Mais le myrte n'est pas seulement en graines. Par exemple, si vous voulez donner juste l'ombre du parfum à votre sauce, vous remuez ce que contient votre mortier avec un rameau de myrte.
Et hop, le tour est joué.
Et le tour est joué.
Le goût du monde se referme. Merci beaucoup. Merci Anne Nercessian, la cuisine romaine antique. Écrit avec Nicole Blanc et publié chez Glénat. Il peut être lu de 7 à 77 ans. Il est très riche. C'est un voyage tentant et gourmand, je vous l'assure. Véronique Zec, je vous remercie infiniment.
Merci.
Le dernier repas à Pompéi, c'est au Musée de l'Homme à Paris jusqu'au mois de janvier, donc on a un peu le temps pour aller découvrir cette incroyable exposition avec des pièces absolument uniques et prêtées par le Musée de Naples. Et c'est un voyage que nous recommandons chaleureusement. Que cette histoire vous ait évoqué ce regard donc sur cette cuisine romaine et c'est sur cette alimentation antique. Racontez-nous sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Des vocations peut-être sont nées. Merci beaucoup à Cécile Bonici, la réalisatrice du Goût du Monde. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. À samedi prochain.
Tout à l'heure.